Voilà, bonjour à tous, Jérémy Royaud pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je reçois Nelly Darbois du Cortex. Salut!
Bonjour,
Alors voilà, ça fait pas mal de temps que j'avais prévu de faire une interview avec Nelly. On en avait parlé avec Richard, mon voisin, quand il était venu nous visiter en Belgique. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter un petit peu pour les auditeurs?
oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nelly, j'habite en Savoie et mon activité professionnelle principale, c'est d'exercer la kinésithérapie dans un centre hospitalier. Et puis à côté de ça, je fais partie du Cortex, donc du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences, dont fait partie également Richard, mon voisin, qui est venu il y a quelque temps sur le balado. Et on est une dizaine comme ça de personnes. Et on enseigne donc l'esprit critique dans nos spécialités, en fait, dans différentes disciplines. Et donc moi, je m'intéresse surtout à l'enseignement de l'esprit critique dans le champ de la santé, de par ma formation initiale. Donc j'enseigne un petit peu en école de kiné, et puis sur la fac à Grenoble. Et à côté de ça, je participe aussi à la réalisation de rapports sur des pratiques de soins non conventionnels. On vient d'ailleurs d'en publier un là sur l'ostéopathie crânienne. Voilà un petit peu.
Super. On pourra faire un épisode là-dessus dans le futur.
Ouais, ça vaut le coup, oui.
Ouais. Alors je vais peut-être commencer par te poser une question qu'on aime bien poser à pas mal de gens. Est-ce que tu peux un peu dire aux auditeurs comment est-ce que tu as connu le scepticisme ou la zététique?
Oui. Du coup, alors moi, c'était en école de kiné. Donc, en fait, il faut savoir que depuis cette année, là, il y a eu une réforme de la formation en école de kiné. Et depuis cette année, il y a des cours dans le programme. Il y a des cours de méthodologie scientifique et de lecture critique d'articles que depuis cette année. Mais il y a déjà, moi, je suis diplômée de 2012 et donc c'était quoi? En 2009, à Grenoble, il y a eu les premiers cours d'esprit critique qui étaient dispensés. Par Nicolas Pinceau, qui est un grand contributeur du Cortex, qui était déjà en lien un petit peu avec Richard, mon voisin. Et donc, j'ai pu bénéficier d'une introduction de 1 heure, je crois que ça durait. C'était la première fois que c'était réalisé. Introduction à la zététique, ça s'appelait. C'était un petit cours d'1 heure, un TD, qui ne payait pas de mine comme ça. Et donc, je crois que l'idée de base, c'était de partir sur un article qui parlait qui comparait. Qui faisait une corrélation et une causalité entre l'utilisation du système d'exploitation Linux et la taille du pénis, voilà, des utilisateurs. Et voilà, on parlait de ça, c'était un journal, je crois que c'était Le Monde qui parlait de ça, qui parlait d'études scientifiques, etc. Enfin, et donc ça présentait quelques aspects de la zététique. Et moi, j'ai vraiment accroché, mais énormément avec ce cours, ça m'a énormément plu. Donc j'ai cherché un petit peu des informations sur Internet. Et puis eu envie d'utiliser les outils de la zététique dans le cadre de mon mémoire. Voilà.
Super. Alors donc je t'ai invité pour parler un peu de ton mémoire. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça traitait?
Oui, bien sûr. Donc c'est dans le cadre des études de kiné, on doit faire ce qu'on appelle un mémoire de recherche qui s'étale depuis la fin de la première année jusqu'en troisième année. Et donc on est assez libre sur le sujet, en tout cas ça l'était à l'époque. Et donc moi j'ai eu envie de traiter de la fasciathérapie en fait. Donc la fasciathérapie, je ne sais pas si, donc là les auditeurs francophones, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde
Non,
forcément la
je pense qu'il vaut
fasciathérapie.
mieux la présenter un
Voilà.
petit peu.
Donc la fasciathérapie c'est une pratique qui a été inventée dans les... Alors initialement en fait les fascias déjà, il faut partir de ce qu'est un fascia. Parce que les personnes du milieu non médical ne savent pas forcément ce que c'est. Le fascia, c'est tout simplement un tissu qu'on a tous dans le corps humain, chez tous les êtres humains, chez les animaux aussi. Et donc, c'est un tissu qui enveloppe en fait les autres tissus du corps. Donc, il y a des propriétés physiologiques particulières qui a été décrit il y a déjà plusieurs siècles. Et donc, il y a certains thérapeutes ou praticiens qui pensent pouvoir agir en fait sur ces fascias pour améliorer la santé des personnes en fait. La première personne à avoir conceptualisé un petit peu le fascia dans un intérêt thérapeutique, c'est Andrew Taylor Steele, donc c'est le fondateur de l'ostéopathie à la fin du 19e siècle. Et en fait, courant 20e siècle, il y a différents praticiens de santé qui se sont inspirés un petit peu de ce qu'avait décrit dit Steele pour fonder des techniques dites de fasciathérapie. Donc il y en a plusieurs qui sont répandues tout au long du XXe siècle. Et moi, je me suis, donc, il y a le rolfing, il y a les techniques de relâchement myofascial, voilà, il y en a plusieurs comme ça. Et moi, je me suis intéressée spécifiquement à l'une d'entre elles parce que c'est la plus développée, il semble, à ce jour, et surtout chez les kinésithérapeutes, en France, dans des pays francophones et un petit peu dans d'autres pays du monde aussi. Et donc, c'est la fasciathérapie dite méthode Danny Bois. Donc, c'est sur celle-ci vraiment que je me suis penchée parce que c'est la plus pratiquée, la plus répandue. En général, plutôt par des kinésithérapeutes, des ostéopathes, puis aussi des gens qui n'ont pas de formation initiale de professionnels de santé.
Ok. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer alors comment tu as procédé pour ce mémoire?
Donc en fait, l'idée c'était d'essayer à la base de monter un petit peu un protocole de recherche. C'est ce qu'on nous demande de faire, d'expérimenter un petit peu. Et donc bien sûr, avant, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des études sur le sujet, sur la fasciathérapie. Est-ce qu'il y avait déjà un petit peu des choses qui étaient montrées? Parce que les personnes qui pratiquent la fasciathérapie sur Internet, dans leurs ouvrages, prétendaient un certain nombre de choses, avaient la prétention d'être efficaces, de guérir certaines pathologies. Voilà. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu dans la littérature et j'étais surprise parce qu'en regardant rapidement, il n'y avait vraiment rien, quoi. Aucune donnée scientifique sur le sujet. Et donc on s'est dit, avec Richard à l'époque, parce que c'était lui qui encadrait mon mémoire, bah, il faut qu'on trouve quelque chose, qu'on teste avec les fasciathérapeutes. Faut qu'on trouve quelque chose à tester. Ça serait super de faire ça dans le cadre du mémoire. Et donc, j'ai lu tous les bouquins en fait, qu'il existe sur la fasciathérapie en français. Bon, il n'y en a pas non plus énormément. Pour essayer de trouver l'affirmation qu'on pouvait tester facilement dans le cadre d'un mémoire d'étudiant, quoi. Quelque chose quand même de pratique et puis qui corresponde à la pratique des fasciathérapeutes, kinésithérapeutes. Et donc, on a monté un petit protocole comme ça. Donc, c'était sur la pulsologie. Donc, c'est une des armes un petit peu des fasciathérapeutes, un de leurs outils de diagnostic et de thérapeutique. Et donc, on a proposé comme ça un protocole et on l'a envoyé à plusieurs fasciathérapeutes en France, des fasciathérapeutes installés, pratiquants, et puis aussi à l'école qui enseignait à l'époque la fasciathérapie en France, qui s'appelait l'École supérieure de fasciathérapie à Paris, et qui disposait apparemment d'un centre de recherche. Et eux ont bien voulu, étaient très contents de pouvoir faire ça avec nous et ont bien voulu, du coup, étudier un petit peu ce protocole et discuter de ça, quoi. Et donc l'idée, c'était, donc ce qu'on leur proposait, c'était la pulsologie. On voulait en fait tester la capacité des fasciathérapeutes à reconnaître la même chose en fait. Est-ce que deux fasciathérapeutes, en utilisant la pulsologie, trouvent la même chose sur le même patient ou dans le temps, deux fasciathérapeutes qui analysent la même personne, est-ce qu'ils trouvent la même chose, quoi? Et donc la pulsologie, en fait, ça consiste tout simplement à prendre le pouls à certains endroits du corps de la personne et à partir de la palpation dans certains territoires bien définis, etc., d'analyser un petit peu qualitativement et quantitativement ce pouls pour potentiellement pouvoir poser un diagnostic et puis après améliorer la pathologie sous-jacente, quoi. Et donc ce qu'on avait proposé, c'était de prendre 10 patients, deux fasciathérapeutes. Les fasciathérapeutes devaient donc analyser en aveugle, c'est-à-dire yeux bandés, sur un patient qu'ils ne connaissaient pas à plusieurs endroits du corps, poser donc à des zones définies en fasciathérapie, poser les doigts dessus pendant maximum 7 secondes, parce que c'est défini par les fasciathérapeutes, ce temps de 7 secondes, et noter les qualités du pouls et dire aussi si la personne était atteinte d'hypertension artérielle ou pas. Parce qu'une des prétentions qui était amenée par les fasciathérapeutes, c'était de pouvoir, à partir de cet examen du pouls manuel, palpatoire, de pouvoir dire si les personnes souffraient ou pas d'hypertension artérielle. C'est ce qui était décrit dans un certain nombre d'ouvrages et de mémoires d'étudiants en fasciathérapie. Donc c'est ce qu'on leur a proposé initialement. Donc on avait fixé un nombre de patients, on avait tout détaillé, etc. Et donc ils étaient partants initialement. Et donc ce qu'ils nous ont répondu, donc on leur a demandé bien sûr de voir est-ce que ça pouvait coller avec ce qu'ils faisaient, est-ce que ça collait bien avec ce qu'ils faisaient. Et là, ce qu'ils nous ont répondu dans un premier temps, c'était qu'en fait la méthode n'avait pas vocation à poser des diagnostics, mais seulement à apprécier un état fonctionnel. Alors, c'était un peu en contradictoire avec ce qui est décrit dans certains ouvrages, mais bon, peu importe, on s'est dit, bon, bah, ok, donc ils ne peuvent pas poser un diagnostic hypertension artérielle, donc on va partir sur des états fonctionnels. Donc, ce qu'ils appellent état fonctionnel, c'était par exemple, ils pensaient pouvoir être capables de dire si les personnes étaient stressées ou non, avec toutes les difficultés, bien sûr, qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'on entend par stressé, etc. Bon, bien sûr, il y a des grilles, etc. Mais bon, on s'est dit, bah, ouais, on va faire comme ça. On va prendre des patients stressés, non stressés. Et puis, on va faire la même chose, quoi, le même protocole. Parce qu'apparemment, ce qui posait problème, ce n'était pas le protocole en soi. C'était, voilà, la pathologie des patients, quoi, le diagnostic. Et donc, une fois qu'on a proposé ça, donc, je crois que c'était par courriel. Donc, on renvoie ça. Là, on était contents parce qu'on était sûr que ça allait pouvoir se faire, quoi. Et là, la nouvelle réponse qu'on a eue, alors je crois que je l'ai notée quelque part parce que pour pas déformer un petit peu les propos, voilà. Alors là, cette fois-ci, ce qu'on nous a répondu, c'était pas possible malheureusement parce que le bilan de pulsologie est indissociable du bilan des tissus conjonctifs. Ce qui ne va pas, c'est que la fasciathérapie est vraiment une méthode globale, une philosophie du soin qui se concrétise jusque dans l'action manuelle. Et en gros, ce qu'il me disait, c'était que le traitement, il était indissociable de l'examen et que du coup, deux personnes n'allaient pas pouvoir trouver la même chose sur les mêmes patients. Et parce qu'en fait, en même temps qu'ils allaient l'examiner, faire le diagnostic, ils allaient la traiter en même temps, quoi. Et
Oui,
donc,
c'est
bah,
ça.
du
Donc
coup,
l'idée,
voilà.
c'est qu'en fait, pendant qu'ils font le traitement, en fait, le diagnostic se fait en fonction de ce qui se passe, en gros, quoi.
Voilà, le diagnostic se fait enfin, quand ils font le diagnostic, en même temps, le traitement est lancé, quoi. Et du coup, on ne peut pas, dans le temps, répéter le diagnostic parce que l'état de la personne aura déjà changé, quoi.
Ouais, je vois.
Donc, voilà. Et donc, bah, là, le problème, c'est qu'on arrive à une impasse, du coup, parce qu'on n'arrive pas à saisir une hypothèse qui était stable. Ça, c'est la base, quoi, dans toute démarche de type scientifique. Il faut arriver à dégager des hypothèses qui sont testables. Sinon, on n'est pas dans le cadre d'une méthode, d'une pratique scientifique, en fait, quoi. Et donc là, c'était des hypothèses étaient irréfutables, quoi, impossibles à tester, en tout cas celles-là, quoi. Et ce qu'ils nous ont proposé, quand même, parce qu'ils étaient toujours dans une démarche, hein, ça c'est clair, de vouloir faire quelque chose, et ça c'est très bien, on était très contents. Mais ce qu'ils nous ont proposé, du coup, c'était de faire ce qu'ils appelaient un protocole de libération des artères. Jusqu'à obtenir un pouls ample, flexible et synchrone, c'était ça. Voilà. Mais le problème, c'est que nous, justement, depuis le début, ce qu'on voulait, c'était justement arriver à déterminer, à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un pouls ample, flexible et synchrone. Est-ce que les fasciathérapeutes sont effectivement capables de se mettre d'accord sur ce qu'est un pouls ample et flexible et synchrone? Et du coup, on ne pouvait pas mettre en place un protocole permettant d'évaluer ça, si on n'était pas sûr que c'était possible d'évaluer de manière reproductible, fiable, ces caractères-là, quoi. Donc on a tourné en rond un petit peu, quoi. Et ça a pu du coup pas aboutir parce que les autres fasciathérapeutes qu'on a rencontrés aussi en parallèle de ça, déjà l'école supérieure de fasciathérapie nous avait demandé que ce soit fait avec eux plutôt qu'avec d'autres, ce qui peut éventuellement se comprendre vu qu'ils avaient peut-être un centre de recherche. Mais voilà, on avait quand même essayé de contacter les fasciathérapeutes en libéral, mais bon, c'est très difficile, pour eux en tout cas, c'est difficile de soit dégager du temps, et surtout ce qui revenait souvent, c'était de dire, mais enfin, pourquoi finalement faire cette étude-là? Nous, on sait que ça marche, on le pratique au quotidien, nos patients sont contents, nos patients et nos patientes sont contents et contentes. Ça vaut pas le coup, quoi. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire.
Ok. Bah, c'est vrai que quand on entend les caractéristiques de ce pouls, enfin ce qu'ils entendent mesurer, c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer comment on pourrait mesurer ça de manière fiable, avec un protocole, parce que c'est déjà des termes qui sont très flous à la base, quoi.
Exactement, exactement. Donc, il y avait quand même quelques termes qui étaient un peu plus. Justement, c'était pour ça qu'on voulait partir sur, plutôt qu'évaluer les caractéristiques du pouls, ben, poser le diagnostic et évaluer le diagnostic, parce que ça, on a un peu plus d'éléments. Voilà, est-ce qu'une personne est stressée ou non, atteinte d'hypertension artérielle ou non, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus objectivable, quoi. Voilà. Et ça n'a pas pu faire.
Et en plus, moi, je me demande aussi si, je veux dire, puisque quand si tu testes le pouls, donc en imaginant qu'ils ont une bonne sensibilité par rapport à ça, je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un patient qui a des problèmes de troubles anxieux ou un patient qui est stressé ce jour-là, par exemple? Parce que je veux dire, le pouls, La fréquence cardiaque, elle évolue en fonction de ton état du moment, comme en fonction de ton état global, quoi.
C'est clair, même au cours d'une journée, effectivement. Donc c'est là où c'est complètement et où c'est intéressant du coup, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait dans un second temps. C'est du coup, à défaut de pouvoir tester expérimentalement, c'est essayer d'aller voir un petit peu plus dans les aspects théoriques de la fasciathérapie, justement leur description du fonctionnement physiologique. Est-ce que ça colle ou pas avec ce qui est plus communément admis dans les bouquins d'histologie, enfin d'anatomie, de physiologie humaine, quoi. À défaut de pouvoir, voilà, d'avoir la possibilité de monter des protocoles expérimentaux, quoi.
C'est ça. Ok, bah donc on va pouvoir parler de ça dans un instant. Avant ça, j'ai peut-être une question. Je pense qui est intéressante, c'est est-ce que tu sais à quel point cette méthode elle est répandue et à quel point est-ce qu'elle est aussi utilisée par notamment par des kinés?
Oui, alors à l'époque, bien sûr, je m'étais intéressée à ça parce que l'idée, c'était que ce soit justement une méthode un petit peu répandue, quoi. Sinon, ça ne valait pas forcément le coup, ni consacrer trop de temps. Et donc à l'époque, alors c'était difficile, il n'y a pas de statistiques officielles, hein, comme ce n'est pas reconnu comme profession de santé, on n'a pas de statistiques vraiment, donc on a des idées en fait du nombre, mais ce n'est pas très précis, quoi. Mais à l'époque, donc c'était en 2000, 2011-2012, il y avait 3 000 fasciathérapeutes, kinésithérapeutes en France. Donc, ce qui correspond à un faible pourcentage. Hein. À l'époque, c'était combien de kinésithérapeutes? J'ai peur de dire des bêtises, 60 ou 70 000. Donc, c'est un faible pourcentage. Par contre, il y a aussi énormément de gens qui se forment sans forcément être recensés, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'était, il y avait surtout, c'était une, il y avait une répansion. Enfin, ça commençait à se répandre, en fait. Il y avait donc des centres de formation en Belgique, en Suisse, en Portugal, au Brésil. Et puis voilà, ça avait une petite place, on va dire, parmi les thérapies manuelles, mais c'est pas du tout la principale. Par contre, c'est bien moins répandu, par exemple, que l'ostéopathie, quoi. Ça, c'est clair.
D'ailleurs, juste pour la petite info, hein, je regarde en même temps que tu m'expliquais, je regarde un petit peu ce qu'il y a comme info sur les chiffres, notamment pour la formation. Je vois ici que la formation, c'est une formation de 3 ans de 630 heures, en tout cas chez vous.
Alors, ça c'était à l'époque, quand j'ai réalisé mon mémoire, donc c'était à l'École supérieure de spatiothérapie qui avait été fondée dans les années 90. Et en fait, maintenant, cette école, c'est il y a un an ou deux, elle s'est dissoute en fait. L'entreprise qui gérait cette école s'est scindée en deux centres de formation différents. Et du coup, la formation qui était effectivement de 600 heures à l'époque en 3 ans, maintenant, en fait, elle est bien plus réduite, mais pourtant, apparemment, c'est la même technique hein, qui est enseignée. Mais elle est faite par deux organismes. Il y a Fascia Formation Pro. Alors là, c'est carrément en 3 jours. Voilà, la
Trois
formation. Et puis
jours,
un
ah
autre.
oui.
Ouais, 3 jours. Ouais, 3 jours.
C'est bien réduit, effectivement.
Ouais, voilà, je ne sais pas si. Enfin, voilà, un programme condensé, sûrement, très condensé. Puis il y a l'autre formation qui est quand même un petit peu plus longue, qui est en 36 jours, mais ça fait quand même moins par un autre centre. Un autre centre, voilà.
Ça, ok. J'ai vu aussi que en 2012, le conseil de l'ordre des kinés avait rendu un avis là-dessus en disant que l'usage du titre de fasciathérapeute par un kiné, ça relevait de la faute professionnelle. Ils ont des avis quand même assez négatifs aussi au niveau de l'ordre des kinés, d'après ce que je vois.
Alors, ils ont effectivement émis ce qu'on appelle un avis déontologique. Ils ont le droit, en fait, de parler leurs compétences, enfin, l'ancrage législatif. Les textes de loi permettent aux conseils professionnels d'émettre des avis déontologiques. Et donc, effectivement, ils se sont appuyés, ben, justement, sur mon travail, en fait, pour émettre cet avis-là, et donc demander aux kinésithérapeutes, enfin, exiger plutôt de la part des kinésithérapeutes de ne pas employer le type de fasciathérapie parce que la technique n'est pas suffisamment éprouvée. En sachant, bien sûr, ce qui a été dit, et c'est vrai, c'est pas bien sûr, c'est loin d'être la seule technique non éprouvée utilisée par les kinésithérapeutes. Mais en même temps, il faut bien commencer quelque part, et déjà, si on peut faire le tri parmi les plus flagrantes, c'est déjà bien, même si, bien évidemment, ce n'est pas la seule, hein, loin de là.
C'est vrai que c'est un argument que j'ai déjà entendu pas mal de fois hein, de la part de certains défenseurs de l'ostéo ou de la chiro ou d'autres méthodes du style en parlant du domaine de la kiné en disant que Il y a beaucoup de techniques de kiné qui ne sont pas non plus validées, et que donc dire que les méthodes alternatives ne sont pas validées, c'est pas un argument suffisant selon eux pour que ça soit pour dire que c'est moins bien que ce qui est fait en kiné, quoi.
Voilà, après, il faut regarder justement aussi les autres aspects, l'ampleur, on va dire, des prétentions. Et dans le cas de la fasciathérapie, surtout à l'époque, moins maintenant, les prétentions étaient vraiment extrêmement importantes, quoi. Et donc, peut-être plus que d'autres techniques, et c'est là où ça fait peur. Il y avait non seulement des prétentions thérapeutiques ou d'amélioration de l'état de santé importantes, mais en plus avec un jargon, des arguments d'autorité, les fasciathérapeutes sur leur site internet, dans leurs ouvrages, dans les émissions radio ou télé auxquelles ils étaient amenés à parler, enfin les fasciathérapeutes, certains fasciathérapeutes pouvaient voilà dire qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques pour étayer leurs propos, que c'était démontré, reconnu scientifiquement,
Ouais,
etc. Et c'est
c'est
là
ça.
où là c'est encore plus, enfin voilà, problématique selon moi, plus que d'autres techniques, même si encore une fois c'est pas la seule. C'était justement qu'il y avait voilà une prétention d'efficacité et un pseudo-étayage scientifique, quoi, qui, en fait, dans les faits, n'est pas réel, quoi.
Et puis je pense qu'il y a un autre argument aussi, c'est que si tu as une méthode de kiné qui est basée sur une compréhension scientifiquement pertinente du fonctionnement, je sais pas moi, de la musculature par exemple, enfin que mais qu'il y a pas encore de méthode qui est efficace pour agir sur cette musculature dont on a étudié le fonctionnement, bah c'est pas la même chose que d'avoir une théorie qui contredit tout ce qu'on connaît au niveau science.
Bien sûr,
Voilà, même si les deux méthodes ne sont pas très efficaces, admettons qu'il y a deux méthodes peu efficaces, bah, voilà, entre une méthode qui s'appuie sur des connaissances validées et puis une méthode qui invente une théorie farfelue, il y a quand même encore une différence aussi, quoi.
Exactement, c'est déjà un premier niveau, même si c'est pas suffisant, c'est clair que c'est déjà un niveau, voilà, un niveau minimal, quoi. C'est qu'au moins, effectivement, ce soit bien, ça s'appuie sur des éléments théoriques valides, quoi. Et dans le cadre de la fasciothérapie, justement, c'est pas le cas. Alors, pour plusieurs aspects, déjà le fondateur de la fasciothérapie, donc qui s'appelle Danny Bois, c'est lui qui a donné son nom à la technique. Donc il l'a fondée dans les années 80, et ce qu'il raconte dans les ouvrages dans lesquels il dit justement comment il en est venu à fonder cette discipline, c'est qu'en fait, il s'est appuyé. Donc lui, il a un parcours il a une formation initiale de kinésithérapeute, puis d'ostéopathe, et il a beaucoup voyagé, notamment en Asie. Il a rencontré des personnes pratiquant la médecine chinoise et d'autres thérapies énergétiques, et puis des personnes aussi rattachées à des mouvements religieux, spirituels. Et en fait, il dit qu'il s'est appuyé sur toutes ces rencontres-là et toutes ces formations-là pour fonder la fasciothérapie. Et ce qu'il revendique notamment, c'est un retour à l'ostéopathie originelle de Steele, donc le fondateur de l'ostéopathie, parce que effectivement, il y a une tendance à l'époque dans les années 80 et puis qui perdure aujourd'hui. En gros, si on veut caricaturer un petit peu l'ostéopathie, il y a deux branches. Il y a une branche qu'on dit un petit peu plus mécanique, structurelle, qui a tendance un petit peu plus à s'appuyer sur des données, un corpus théorique, un savoir validé sur certains aspects. Et puis il y a une branche un peu plus spirituelle, qui est qualifiée parfois de biodynamique, qui elle ne s'appuie vraiment absolument pas du tout sur des données et des conceptions scientifiques. Et donc lui, Danny Bois, revendiquait un retour à l'ostéopathie originelle de Steele, sous-entendu l'ostéopathie plutôt biodynamique, la deuxième sorte, quoi, plus qui s'appuie plus sur des conceptions spiritualistes, etc. Et donc la fasciothérapie, ça s'inscrivait là-dedans, en fait, dans un retour à l'ostéopathie originelle de Steele. Et donc un des éléments centraux de la fasciothérapie, qui est commun en fait à plein de pratiques de soins non conventionnels, c'est une conception, il s'appuie sur une conception un petit peu intuitive, mais pas validée, quoi, qui est celle en fait de. Donc, tu as sûrement déjà entendu, la plupart des auditeurs doivent avoir déjà entendu parler de ça, hein. C'est ce qu'on appelle parfois le vitalisme. Donc, c'est la croyance qu'il y a au sein de tous les êtres vivants, et c'est ce qui permet d'ailleurs de les distinguer des êtres non vivants, une espèce de force vitale qui parcourait le corps, d'énergie, qui est dissociée de la matière, ou de l'âme, même pour ceux qui croient en l'existence d'une âme. Et donc, qui parcourt comme ça tous les êtres vivants, qui caractérise un petit peu ce qui fait le vivant et sur lequel on peut potentiellement agir, en fait, d'un point de vue thérapeutique. Donc, le vitalisme, ça a été beaucoup, beaucoup décrit, notamment au XVIIIe siècle, avec le mesmérisme, tout ça, même si déjà, à l'époque des Grecs, Aristote, il parlait déjà de conception qu'on pourrait rattacher au vitalisme, mais ça a été beaucoup décrit et critiqué déjà à l'époque au XVIIIe siècle parce que c'était irréfutable en fait. Comme ce n'était pas quelque chose de matériel, on ne peut pas mettre en évidence cette énergie. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait dans le cadre de mon travail, c'est que parce qu'éventuellement, Danny Bois, le fondateur, aurait pu parler de s'appuyer sur cette conception-là, mais ça aurait pu être abandonné au fil des années et la phasothérapie peut-être aujourd'hui ne s'appuie plus là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans toutes les documentations possibles sur la phasiothérapie depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2012 en l'occurrence, et j'ai regardé les occurrences en fait. Et tout le vocabulaire qui tournait autour de voilà, cette force vitale, force d'autorégulation, force de guérison. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en gros, c'était dans à peu près 80%, 85% des documents, y compris les plus récents, on avait une évocation de ce concept-là, en fait. Donc, c'est voilà, c'est un des concepts centraux. En fait, ce serait, donc, selon les fasciathérapeutes, le fascia, c'est justement le siège un petit peu. De cette énergie vitale, quoi. Et ils vont pouvoir, en jouant sur les fascias, par un toucher manuel, bah, agir sur cette sorte d'autorégulation pour que le corps se guérisse par lui-même, de par l'intermédiaire de cette force d'autorégulation, quoi. Mais c'est quelque chose d'irréfutable, en fait. Il y a eu quelques études hein, pour essayer de mettre en évidence, justement, est-ce qu'il y aurait un autre système circulatoire, autre que le système lymphatique et que le système cardiaque, quoi, qui existerait, en fait, un système énergétique, mais c'est indémontrable de par les caractéristiques de ce système-là, quoi. Voilà. Et donc, c'est
Ça fait
sur
un
ça que.
peu penser aussi à tout ce qui est lié à l'acupuncture, finalement.
Exactement, voilà, c'est en ostéopathie, en médecine chinoise, en Reiki, c'est des choses qui sont reprises, quoi, le mouvement interne, force d'autorégulation, dans plein d'autres techniques. Ouais. Et ce qu'il y a en plus, ce qui pose problème aussi dans la fasciathérapie, c'est qu'il s'appuie sur une conception donc, des fascias qui n'est pas celle en fait, qui est communément admise et qui est enseignée. Les fascias, en fait, on peut les. Il y a eu des études. Ce qu'on appelle enfin, histologique, où on a regardé au microscope quoi, les fascias, on les a comparés, etc. Et on est arrivé à faire des classifications selon la proportion de telle fibre, tel tissu, il y aurait plus de tels composants, etc. Et en fait, les fasciathérapeutes proposent une autre classification que celle qui est plus communément admise, en inventant des nouveaux fascias, par exemple le fascia durmérien, comme en ostéopathie, mais sans s'appuyer sur des données expérimentales, sur des observations microscopiques, ou en tout cas sans nous donner la possibilité de vérifier s'ils sont appuyés sur des données de ce type, quoi. Donc dans des bouquins, il y a des bouquins, c'est assez impressionnant à regarder, hein, où il y a des dizaines de pages avec des très beaux schémas de fascia, avec toute une nouvelle classification, mais complètement arbitraire en fait, quoi. Ouais.
C'est ça, donc pour rappeler un peu donc, le fascia, donc c'est une membrane de fibres qui est au niveau des muscles, c'est ça, si j'ai bien compris?
Alors, ouais, au niveau en fait qui entoure tous les muscles et les différents organes du corps en fait et en différentes couches et partout des pieds à la tête on a des fascias en fait quoi. Donc c'est quelque chose qui s'observe hein, si on nous le montre bien sûr c'est pas trop petit pour être vu à l'œil nu. Donc dans une intervention chirurgicale par exemple on peut observer des fascias. C'est très fin mais ça c'est visible quoi à l'œil nu. Donc c'est quelque chose qui est facilement, qui est connu, hein, dont les propriétés sont connues et sont utilisées en médecine plus conventionnelle, notamment les chirurgiens de la main qui peuvent utiliser les fascias dans certains types de chirurgie. Donc c'est quelque chose qui est décrit et connu déjà dans la médecine classique, quoi.
Et donc, pour en venir un peu au résultat, est-ce que tu peux un peu nous dire un peu ce que tu as trouvé par rapport à tes recherches?
Ouais. Donc en fait, vu qu'on n'a pas pu monter un protocole expérimental, etc., donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein, c'est ce qu'on appelle une revue littérature. Essayer de regarder toute la littérature consacrée au sujet, plutôt la littérature scientifique, mais comme il y avait en fait une seule étude dont je peux parler rapidement qui portait sur le sujet, j'ai élargi beaucoup plus large et j'ai lu un petit peu tout ce qui concernait la fasciathérapie en définissant certains critères d'inclusion pour essayer de voir, déjà, plus important, est-ce qu'il y a des données scientifiques qui tendent à montrer une efficacité spécifique de la fasciathérapie ou une validité des outils diagnostiques qui sont utilisés. Ça, c'était vraiment le plus important. Et puis, dans un second temps, de manière parallèle, finalement, est-ce que les outils qu'on utilise en esprit critique, en esthétique, les caractéristiques qu'on peut donner parfois aux pratiques de soins non conventionnels, est-ce qu'ils se retrouvent justement dans ce qui constitue la fasciathérapie, quoi, de par son historique et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est les deux aspects, voilà. Et donc ça faisait une quarantaine de documents, donc c'est pas non plus énorme, qui se consacrait spécifiquement à la fasciathérapie. Et donc il y a une seule étude scientifique, en fait, une seule étude qui portait sur l'efficacité, est-ce qu'il y a une efficacité spécifique de la fasciathérapie ou non. Donc c'est une étude qui est parue en 2009, donc dans une revue scientifique, donc qui est notamment indexée sur la base de données, la Medline, hein, la base de données médicale. Et donc je l'ai, enfin non, justement, ce que j'ai pas fait d'ailleurs dans le cadre de mon, alors avec le recul, ça me semble fou d'ailleurs de ne pas avoir fait ça, mais c'est que je l'ai pas analysé en fait dans le détail dans le cadre de mon mémoire, parce que justement j'étais tellement contente qu'il y en ait une que j'ai plutôt insisté sur l'aspect, c'est bien qu'il y ait une étude, voilà, je crois que je l'avais décrite et rapidement dit peut-être un ou deux biais, mais voilà, sans trop rentrer dans l'analyse, alors qu'en fait, avec le recul, je la regarde maintenant, en fait, elle n'a d'étude scientifique, enfin, que le nom, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'était d'étudier aussi la pulsologie, donc comme dans le protocole qu'on avait proposé, mais cette fois la pulsologie d'un point de vue thérapeutique, pas d'un point de vue diagnostic. Et donc il y avait deux groupes de patients qui avaient en fait une séance. Donc les deux groupes, il y avait un groupe de patients dit hypertendus et d'autres dit normotendus stressés, qui devaient sentir une sensation interne de stress. Donc déjà c'est un peu bizarre dans la catégorisation, parce que c'est pas quelque chose qui est très couramment décrit, hein, le profil normotendu stressé.
Normo tendu, oui.
Toi qui es d'ailleurs dans le milieu, je sais pas si c'est quelque chose
Je n'ai
qui
jamais
t'a.
entendu ce terme de ma
Ouais,
vie.
voilà. Donc voilà, c'est une sorte. Pardon, donc quand on lit, c'est en anglais, mais ça se traduit comme ça, hein, en français, et même le terme anglais, il sera pas décrit. Mais en tout cas, voilà, c'était les deux catégories de patients. À la limite, peu importe, c'était pas trop ça le plus important. Et donc ces patients-là avaient une séance de massage suivie d'une séance de fasciathérapie. Et on analysait certaines de leurs caractéristiques de ce qu'ils appelaient leur stress vasculaire. Donc en fait, on leur faisait des mesures de tension artérielle et certaines autres mesures sur des paramètres un peu spécifiques à l'échodoppler. C'est un appareil qui permet d'analyser un petit peu la circulation du sang dans les artères, quoi. Un appareil qui est validé. Et donc, ce que regardaient après les évaluateurs, c'était si après la séance de massage et après la séance de fasciathérapie, quelle différence il y avait en fait dans l'amélioration de ces paramètres qui reflétaient ce qu'ils appelaient le stress vasculaire, quoi. Est-ce que par rapport au repos et par rapport après le massage, les personnes qui avaient la séance de fasciathérapie avaient des meilleurs paramètres que voilà, après le massage ou après le repos. Et donc en fait, eux, ce qu'ils trouvent, c'est que les paramètres sont meilleurs et de manière statistiquement significative, et que donc la fasciathérapie a un impact positif sur ces paramètres-là et donc potentiellement sur la santé. Et en fait, il y a deux biais, enfin, énormes dans cette étude. C'est déjà que on ne connaît pas le temps ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Quel temps sépare la séance de massage de la séance de fasciathérapie? Et du coup, tous les patients ont eu massage d'abord, fasciathérapie après. Donc vous pouvez déjà penser qu'il y a un effet de cumul potentiel, quoi, ne sachant
Ouais.
pas ce temps de fenêtre thérapeutique. Et pourquoi, par exemple, ne pas avoir coupé les patients en deux et avoir inversé, en fait, en faire certains en massage d'abord et passer thérapie après. Et c'est ce qu'on appelle des études en crossover, c'est vraiment ce qui est fait, en fait,
C'est très très mauvais
c'est
comme conception
minimum.
d'études, quoi.
Voilà, c'est très mauvais. Et alors, le pire, je crois, pense peut-être, c'est en fait que le. Donc, en fait, dans les. Comment ils analysaient les résultats, la fasciathérapeute était à la fois celle qui recueillait les données et qui les exploitait avec d'autres personnes. Donc,
D'accord.
là, donc, il n'y avait pas du tout ce qu'on appelle de double aveugle ou. Voilà,
Au
donc
moins un simple aveugle, quoi.
simple aveugle, quoi, qui était possible à faire. Et en plus, et ça, ils le disent carrément hein, dans l'étude. En fait, ils s'appuyaient sur une classification à dire d'experts, c'est-à-dire que pour exploiter les données, en fait, ils avaient eux-mêmes établi leur propre classification et ils avaient défini une échelle de 1 à 5 où ils analysaient les données en fonction d'une classification qui avait été établie que pour que pour cette étude, en fait, quoi. Par en plus la facithérapeute praticienne. Enfin, du coup, ça invalide complètement les résultats, quoi. C'est impossible de reproduire la même chose et c'est dommage, c'est la seule étude sur le sujet, quoi.
Effectivement, on peut pas conclure grand-chose d'une étude
Non,
comme ça, quoi.
voilà. Voilà, sans parler du nombre de patients, etc. Et puis voilà, enfin, voilà, qui est énorme. Mais donc voilà, on ne pouvait pas vraiment s'appuyer sur cette étude scientifique-là. Et donc, bah, après tous les autres documents qu'il y avait que j'ai analysés, c'était intéressant justement pour comprendre un petit peu l'émergence de la phasothérapie, la conception, est-ce que c'était corrélé ou non, est-ce qu'il y avait, voilà, est-ce que leur conception s'appuyer sur une conception établie habituellement. Mais donc les conclusions à lesquelles j'ai abouti, bah, c'est que tout simplement, hein, à l'heure actuelle, il n'y a pas de. Contrairement à ce qui est prétendu, c'est là où ça pose problème, ou ce qui était prétendu plutôt, il n'y a pas de preuve de l'efficacité spécifique de la fasciathérapie, spécifique sous-entendu. Voilà, bien décerner d'efficacité tout court, en fait. C'est-à-dire que effectivement des personnes, après avoir expérimenté des séances de fasciathérapie, peuvent potentiellement se sentir mieux, mais on ne peut pas parler à l'heure actuelle d'efficacité spécifique démontrée. C'est-à-dire qu'elles peuvent se sentir mieux, mais on n'a rien qui nous laisse croire, penser que c'est grâce à la séance de fasciathérapie et l'acte fasciathérapeutique en lui-même, en fait, la palpation des tissus, les pressions lentes, superficielles sur la peau qui auraient une action sur le fascia, ça, on ne peut pas du tout dire qu'il y a un lien entre l'acte précis que fait le fasciathérapeute et la modération potentielle de l'état de santé. Et il y a plein d'autres choses qu'on connaît, l'évolution naturelle de la maladie, les effets contextuels dits placebo, qui font que l'amélioration de l'état de santé constatée, ben on devrait peut-être plus les attribuer à ces effets-là qu'à une efficacité spécifique, quoi.
Ok. Et donc, par rapport à tout ce qu'il y a dans ton mémoire, est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes à expliquer aux auditeurs ou d'autres résultats ou d'autres infos que tu as appris?
Je crois qu'on a pas mal fait le tour là quand même, parce qu'après ça rentrait plus dans les entrailles de la fasciathérapie. C'est pas forcément. Voilà, on a bien fait le tour. Après, il y a peut-être juste quelque chose qui est intéressant à relever, parce que c'est quelque chose qui se retrouve pas mal dans les différentes prêts de soins. C'est vraiment dommage. C'est l'idée. Donc en fait, les fasciathérapeutes, notamment à l'école supérieure de fasciathérapie, les gens qui étaient en formation en fasciathérapie, ils devaient en même temps que leur formation faire un master en fait avec une convention avec une université située au Portugal, etc. C'était un master en ce qu'ils appelaient en psychopédagogie perceptive ou en kiné du sport, mais c'était un master de fasciathérapie, quoi, voilà, peu importe. Et enfin, qui portait en tout cas, qui devait porter sur la fasciathérapie. Ces mémoires étaient et sont d'ailleurs encore présentées sur certains sites comme des études scientifiques, en fait. Et la méthodologie employée dans ces mémoires, c'est en fait ce qu'on appelle une étude de cas. Donc c'est ce que font d'ailleurs beaucoup hein, d'étudiants en kinésithérapie, etc. Et donc, le problème, là, c'est qu'en phytothérapie, ils s'appuyaient dessus en disant que c'est des études scientifiques et que ce qu'elles mettaient en évidence, c'était valable et que ça prouvait l'efficacité thérapeutique, spécifique et thérapeutique de la phytothérapie. Et ça, c'est un gros problème, parce que donc, une étude de cas, c'est par exemple, là, il y en a une encore eu récemment, là, en 2013, un phytothérapeute qui s'est intéressé à trois golfeurs, donc golfeurs professionnels. Il leur a fait trois séances de fasciathérapie à chacun, alors d'accordage somato-psychique, c'est un autre outil de la fasciathérapie à côté de la pulsologie. Donc il faisait un entretien avant et après séance où il notait certaines choses qu'il n'avait pas définies en plus forcément au préalable, certaines caractéristiques, leur exploit sportif, etc. Il faisait trois séances de fasciathérapie et après il regardait sur les paramètres avant. Comment les personnes s'étaient améliorées, mais c'était des paramètres très très flous en fait. C'était voilà, l'amélioration des performances mais, ou la modification des secteurs de jeu. Et à partir de là, s'ils voyaient sur ces trois golfeurs que ça allait mieux, bah, voilà, c'était une preuve de l'efficacité de la fasciathérapie, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça n'apporte aucune preuve en fait, parce qu'il a pu se passer plein de choses dans la vie de ces golfeurs qui font que ils ont potentiellement amélioré leur performance de jeu. Et encore faut-il bien définir précisément comment on évalue cette amélioration des performances, quoi, avec des outils précis pour permettre de l'évaluer, quoi. Et voilà, il y a vraiment beaucoup, c'est dommage, il y a beaucoup d'étudiants en phytothérapie qui passent du temps à faire des mémoires là-dessus. On trouve même dans des mémoires, c'est vraiment surpris dans les conclusions de son étude pour montrer l'efficacité, une étudiante qui disait qu'en fait, 4 mois après avoir fait des séances de phytothérapie à une de ses patientes, qui s'appelait Henriette, pardon, elle l'a croisée dans la rue, elle revenait de faire ses courses et elle n'avait pas de séquelles apparentes
Ouais,
sur sa
ok.
pathologie. Voilà. Donc ça, c'était le moyen d'évaluer l'efficacité des séances de
Super
phytothérapie,
fiable,
quoi.
quoi.
Enfin, et ouais, voilà, donc c'est vraiment dommage de passer du temps à faire des choses comme ça qui étayent pas du tout, en
Ça
fait,
ne vaut
la
rien
vie.
du tout, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, parce que même si le
Exactement, voilà.
patient n'allait
Oui.
pas bien, bah ça prouverait pas que la thérapie n'est pas efficace pour autant, quoi.
Ça fait vraiment pas avancer du tout
Ouais.
le
Ça
sujet,
indique
quoi.
bien à quel point la plupart des praticiens, que ce soit pour cette discipline-là ou pour d'autres, hein, n'ont vraiment aucune
Oui.
connaissance du fonctionnement de la méthode scientifique et des publications, quoi.
Oui, il y a vraiment un manque justement dans les formations initiales, parce que souvent c'est les professionnels, les fasciathérapeutes, ils sont issus d'une profession de santé à la base, ils ont eu une formation en santé, en kinésithérapie, en médecine aussi, c'était proposé aux médecins, mais malheureusement,
Oui, c'est ouais,
ça ne suffit pas.
effectivement. Ok, super. Alors peut-être comme mot de la fin aussi, est-ce que si les gens sont intéressés par avoir un peu plus d'infos sur ton travail ou sur ce que fait le Cortex? Où est-ce qu'on peut trouver ça pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, mais.
Voilà, donc il y a notre site internet, hein, www.cortex.org. En tapant fasciathérapie, il y a mon mémoire qui apparaît, et puis un autre article où justement Danny Bois, le fondateur de la fasciathérapie, nous a répondu, en fait, a répondu à mon mémoire. Il lui a été transmis par les personnes avec qui j'avais été en contact pour évaluer, pour monter le protocole. Et il nous a fait une réponse longue, argumentée, critique par rapport à notre travail. Et on a eu l'autorisation de la publier un an après. Et donc, on l'a bien sûr mis en ligne et puis on y a répondu. Et à ce jour, Danny Bois n'a pas répondu encore. Mais voilà, donc c'est en
Intéressant.
ligne aussi. Ça peut être intéressant à regarder, quoi. Voilà, et puis donc www.cortex.org. Et puis, on a plein, plein d'autres, bien sûr, articles et infos sur d'autres pratiques de soins non conventionnels.
Ok, super. De toute façon, je mettrai le lien sur la page de l'épisode hein, pour ceux qui ne les connaîtraient pas déjà. Voilà, ok.
Ok.
Bah donc tout là, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Je pense que c'était spécialement intéressant pour nous aussi parce qu'on avait, enfin, on n'a pas traité beaucoup le sujet des médecines alternatives finalement, malgré 300 et plus épisodes. Donc je pense qu'il était temps.
Mais c'est qu'il y en a
Oui, c'est
aussi.
ça.
C'est qu'il y en a aussi, oui. Ouais,
Je pense
ouais.
qu'il était
Puis ce qui
temps
peut être.
qu'on fasse un peu ça.
Ouais, puis après, les outils sont les mêmes. Donc, normalement, si vous avez bien déjà diffusé tous les outils d'esprit critique zététique, les personnes vont être de plus en plus en mesure par elles-mêmes de l'appliquer à toutes les pratiques de soins non conventionnels ou conventionnels d'ailleurs, par eux-mêmes, quoi, sans forcément. Ce serait
On
chouette.
espère, on espère. Ouais, donc
Ok,
bah de
bah merci
rien,
en
ça
tout
c'était
cas.
avec plaisir et j'en profite
Oui.
aussi pour dire que bon, quand ça sera possible, on essaiera aussi de faire un épisode sur l'ostéopathie, sur le dernier dossier que vous avez sorti. Ça nous intéresse
Énorme.
aussi évidemment. Et on en avait déjà parlé avec Richard quand il est venu aussi, on avait dit qu'on essaierait de faire ça. Voilà, mais
Très
en tout cas,
bien.
merci d'être venu et à bientôt.
Merci, à bientôt.